Bonsoir à tous et bienvenue sur Paris Central. Aujourd'hui, je suis avec Ricoba, Ricoba, Ricoba. Comment tu vas, Ricoba?
Ça va impeccable.
La pépite de YouTube. Alors, aujourd'hui, hey, les gars, aujourd'hui, je vous ai dit, ça va être une émission sensationnelle. Je suis content. Je suis content. On a gagné le Classico. Moi, je suis très content. Directement les. On a
Attends,
plus
attends,
joué.
tu bugs là. Ah ouais, tu bugs direct.
Je bug là, je bug.
Là, c'est bon là. T'as bugué 5 secondes.
Suis en partage de connexion, c'est ça le problème. Bon, c'est pas grave, je pense que ça devrait pas trop bugger. Alors, du coup, aujourd'hui, le programme. D'abord, on va parler de la vie sans Neymar. Étant donné que Neymar sera pas là pour, je crois, 2 semaines, si je dis pas de bêtises, 2 ou 3 semaines. Alors, la vie sans Neymar. Ensuite, on va parler du système de jeu. On va ensuite parler du 11 à mettre en place contre le Bayern. Est-ce qu'il faudra faire tourner contre Nantes? Et donc, après, on fera des questions-réponses. Voilà. Du coup, on démarre directement le live. Bonjour à ceux qui sont déjà là. Alors, que penses-tu, le sujet là, c'est la vie sans Neymar. Que penses-tu, pour toi, comment vois-tu ton Paris Saint-Germain sans Neymar?
Bah pour moi, c'est quand même réducteur de sauter dessus de sauter sur Neymar. Je sais que j'ai vu pas mal de commentaires. Voilà, on est mieux sans Neymar. Neymar, il n'a rien à faire dans l'équipe, etc. En fait, je trouve que le sujet, c'est pas forcément Neymar. Parce que je pense sincèrement que s'il y avait le duo Neymar-Mbappé contre Marseille, genre Neymar à la place de Messi, et que c'était un duo, je pense qu'on aurait fait le même match et ça se serait bien passé aussi. Donc je trouve ça dommage de lui tomber dessus comme si c'était clairement le problème. Le problème significatif, c'est que quand les trois sont là, on est moins bien équilibré, le milieu il est en galère et c'est plus compliqué. On a aussi deux joueurs de ballon qui se ressemblent beaucoup, même s'il y a des divergences dans leur jeu, mais ils se ressemblent quand même. C'est deux playmakers, Messi Neymar, des fois ils occupent la même zone, même également pour Neymar, celle de Vitinha par moment. Donc c'est plus ça qui est préjudiciable au PSG, mais ce n'est pas forcément Neymar lui-même. On l'a déjà vu au PSG, le binôme Neymar-Mbappé fonctionne très bien, le binôme Mbappé-Messi fonctionne très bien, mais je pense que c'est simplement le trio qui ne fonctionne pas bien au PSG et qui empêche d'être fort collectivement, d'être fort à la récupération, au pressing, et d'être vraiment un bloc équipe. C'est déjà pas facile quand tu as une grande star, quand on en a deux. C'est plus compliqué aussi, et quand on en a trois, forcément. Donc voilà, après, il y en a certains qui disent, oui, mais quand les trois sont là, bah tiens, il y a le commentaire, voilà, je sais, c'est souvent Vincent d'ailleurs qui le dit en plus. Mais moi, pour moi, il ne faut pas se fier aux statistiques. Bien sûr que les trois vont toujours faire leur stade. Dans tous les cas, ce sera. Et tu peux les mettre à deux, à trois, ils vont toujours avoir des stats incroyables. Mais la vérité, c'est que le bloc équipe, il en prend un coup. Et je trouve que bah, tu regardes les matchs les plus aboutis qu'on fait, mine de rien. En tout cas, le match le plus abouti de la saison qu'on fait, je trouve. Eh ben, c'est avec un duo et surtout bah, le profil de. Parce qu'on peut parler du duo Messi-Neymar, même s'il a bien fonctionné en début de saison, j'ai trouvé que ça manquait beaucoup d'un profil comme Mbappé. Forcément, il fait reculer une défense, il laisse plus d'espace au playmaker. Donc forcément qu'ils ont eu du mal sans Mbappé. Mais pour moi, c'est vraiment une question de. C'est pas la question de Neymar, c'est juste que bah, on est meilleur avec un duo, tout simplement. Et ceux qui vont te dire oui, mais il y a eu déjà la MSN ou même la BBC qui a formé des trios, etc. Ouais, mais quand tu regardes les profils, tu avais des Suarez, tu avais des Benzema, tu avais des Bale, ils travaillaient quand même plutôt pour l'équipe, contrairement à là où tu as vraiment trois grandes stars qui, eux, bah, voilà, font leur petit truc, mais ne vont pas te défendre à part Neymar de temps en temps.
La question, oui, moi je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Le problème n'est pas Neymar, hein, loin de là. Celui qui dit que Neymar est un problème footballistique, je parle footballistique, après tout ce qui se passe en off, on s'en fout un peu, nous ici on est là pour parler football. Celui qui dit que Neymar est un problème footballistique, bah il n'a pas forcément vu sa saison. Alors même oui, là, il était un peu blessé, donc c'est vrai que c'était un problème, mais globalement, quand on parle de football, depuis le début de la saison, Neymar n'est pas un problème. Maintenant, il faut parler de cohérence d'effectif. Moi, je le répète souvent, mais on a parlé la dernière fois qu'on a fait un live à deux. Tu as deux tempos différents dans cette équipe. Tu as le tempo que va demander Kylian Mbappé, qui va être la vitesse, la prise de profondeur, etc. Et tu as un deuxième tempo qui, eux, ont cette relation technique et justement, qui monopolise le ballon, mine de rien. C'est le duo Messi-Neymar, qui, eux, vont demander plutôt un jeu de possession, contrairement à Mbappé, qui va demander plutôt un jeu de transition rapide ou de contre-attaque. Il peut jouer en phase de possession, mais à trois joueurs. C'est très compliqué de faire tourner une mayonnaise qui a du sens, tout simplement. Donc, le problème n'est pas forcément Neymar en tant que tel, Mais faut se dire les choses, le trio ne fonctionne pas. Alors, il va fonctionner, il va faire des stats. Hein. En Ligue 1, tu as tout pour gagner. Tu as tout pour gagner. Et encore, à chaque fois que tu as rencontré un gros, tu n'as pas gagné. Le seul match que tu as gagné contre un gros, c'est contre l'OM. Et contre la Juventus aussi. Mais bon, la Juventus n'est pas un gros actuellement. La Juventus, voilà, ils sont fait. Bon, ils ont gagné le deuxième match contre Nantes. On parle quand même d'une équipe qui s'est fait accrocher par Nantes au premier match et avec la manière. Alors oui, ils ont Ludovic Blas, etc. Les gars, Ludovic Blas. Il a 27 ans, c'est un bon joueur de Ligue 1, je ne suis pas en train de dire qu'il est mauvais, mais Ludovic Blas. On parle de la Juventus de Turin quand même, les mecs. Donc c'est pour vous dire à quel point que des fois les noms font un peu les. Tu vois. Donc mine de rien, on a gagné contre aucun groupe. Même Benfica, contre lequel on a dominé tout le match, on n'a pas gagné. On n'a pas gagné. Le seul match qu'on a gagné, c'est l'OM. On a perdu contre eux. On a gagné aussi au match aller. Je suis un menteur. On a gagné aussi au match aller. On a gagné aussi au match aller. Mais bon. Mais on l'a vu depuis le retour de la Coupe du Monde. Ce trio, même avant même la Coupe du Monde, on savait déjà que ça allait, qu'à un moment, voilà, ça allait pas se loger. Parce qu'en fait, pour que le trio marche, pour moi, il n'y a qu'une possibilité. C'est qu'à la rigueur, tu as deux personnes qui brillent. C'est possible. Et encore, il faut toujours qu'il y en ait une qui brille plus que l'autre. C'est normal, c'est une équipe de football, c'est comme ça. Tu vois, et aujourd'hui, celui qui doit plus briller, c'est logique. Ça va être Kylian Mbappé sur le terrain. C'est lui qui fait le. C'est lui qui fait le... Excuse-moi Diego pour les questions. C'est juste que comme je n'aurais pas en même temps, je ne peux pas faire monter les questions en même temps vu que j'ai un argumentaire. Désolé. Par rapport à l'équipe. Mais celui qui doit briller le plus, non, logiquement, ça va être Kylian Mbappé, vu que c'est le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Donc forcément, c'est lui qui va le plus briller. Maintenant, dans la réalité des choses, c'est que tu as trois joueurs qui vont vouloir briller sur le terrain. Et c'est logique, vu qu'ils ont jeu, qu'ils vont faire, qu'ils vont briller. Et c'est pas possible. Trois stars qui brillent autant, c'est forcément les joueurs de derrière qui vont patauger. Et on le voyait, les joueurs de derrière patauger. Là, on l'a vu, contre l'OM, tu regardes bien, Messi n'a pas joué d'une autre manière qu'il jouait depuis le début de la saison. Kylian Mbappé n'a pas joué d'une autre manière qu'il jouait d'une autre façon. Mais pourtant, tu avais une meilleure équipe. Pour la simple raison que tu ne te retrouves pas en 7 plus 3, mais plutôt en 8 plus 2. Le 8 plus 2 change tout, t'as un autre joueur dans le cœur du jeu qui va faire les efforts. Donc forcément, ça va te créer une meilleure structure d'équipe. Et lors des phases de transition rapide, tu vas être très très bon. Le jeu en triangle qu'on voyait sur les côtés, très rapide, bim, ça envoie Kylian Mbappé, hop, prise de vitesse, but. Parfait. Donc ça fonctionne mieux. Donc la blessure en tant que telle, c'est pas Neymar qui est fautif. Moi, ça aurait été Messi, j'aurais dit exactement la même chose. Le fait que le jeu aille plus vite, et même je pense que même si ça aurait été Messi qui serait blessé, je pense que tu aurais mieux encore mieux défensivement parce que Neymar, lui, fait les efforts par intermittence. Donc ça aurait été peut-être plus cohérent. Aujourd'hui, voilà. Pour moi, ce n'est pas forcément le trio, mais voilà, la blessure de Neymar, je ne vais pas dire qu'elle fait du bien, parce que pour moi, une blessure n'est jamais quelque chose de bénéfique pour une équipe. Par contre, oui, elle donne plus de cohérence à cet effectif. Même, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, pour revenir sur le match contre l'OM, je sais qu'on a fait un débrief, mais on n'était pas là. Tu l'as senti directement. Je pense que tu es d'accord avec moi. Je pense que tu es d'accord avec moi. Et comment, je ne sais pas si tu étais là après pour les débriefs. Mais toi, t'en penses quoi du match sans Neymar? Comment tu as vu ton équipe? Comment tu l'as senti?
Bah, on était. Bah, après, il y avait une nouveauté sur ce match, c'est que on a joué du coup avec seulement le binôme, mais en plus de ça, il y avait vraiment trois. Des fois, il y avait des binômes, mais tu sais, il y avait un Ekitike ou un Solaire à côté. Or que là, il y avait trois milieux axiaux. Il y avait Ruiz, Vitinha et Verratti. Donc mine de rien, ça change un petit peu quelque chose parce que du coup, il y a moins d'embouteillage, je trouve. Et surtout, Messi, même s'il a tendance à redescendre, à récupérer les ballons, les remonter un petit peu, je trouve qu'il le fait moins quand même que Neymar. Et du coup, tu as moins d'embouteillage au milieu du terrain. Et on a vu Vitinha d'ailleurs meilleur. On l'a déjà vu plusieurs fois, Vitinha se retrouver un peu bridé parce que Neymar revient souvent dans sa zone, prendre les ballons, les remonter. Donc du coup, il se retrouve un petit peu avec un Neymar dans les pattes. C'est pas toujours. Je pense que voilà, c'est pas anodin en tout cas si Vitinha a fait un gros match sur le dernier match. Maintenant, il y a une différence aussi, c'est qu'effectivement, Messi redescend un peu moins bien. Et surtout, je trouve que Messi, il a un jeu année après année quand même beaucoup plus simple, je trouve. Il respecte un petit peu plus le jeu, sans manquer de respect à Neymar. Je trouve qu'il respecte un petit peu plus le jeu. Il va plus faire la passe au bon moment, il va lâcher le ballon plus rapidement. On le voit sur les appels d'Mbappé, il est quasiment toujours servi et très bien servi. Alors que Neymar, il a tendance souvent à faire la petite touche de trop, garder un petit peu trop la balle, casser un peu le rythme. Alors que je trouve que Messi, il va accélérer le rythme, il va respecter le geste qu'il faut faire. Et sur le match contre l'OM, ça s'est vu, il a toujours fait les bons choix et le binôme a très bien fonctionné. Mais après, voilà, c'est des spécificités de jeu. Et je trouve qu'effectivement, quand il y a ces deux playmakers plus Mbappé, ce n'est pas forcément nous rendre service ni au jeu, ni à tout l'aspect défensif et notre solidité collective.
Bah, c'est des caractéristiques de jeu. Oui, après, en termes de vision de jeu, je pense que Neymar et Messi, ça se vaut. Clairement, en termes de vision de jeu, en termes de sens de l'attaque, etc. Je pense que ça se vaut tous les deux. Hein. Ils sont pas... Les deux sont hors normes. Donc forcément, voilà, quand tu arrives dans la dernière marche, en général, il n'y a personne au-dessus de toi. Maintenant, oui, dans le tempo du jeu, forcément, c'est deux profils différents. Tu as un Neymar qui va être créatif comme Messi, hein. Messi est créatif, sauf que tu as un Neymar qui va être davantage dans la fantaisie. Et c'est pour ça qu'on est parti chercher aussi, tu vois, faut dire les choses. Hein. Les dribbles de Neymar, etc., c'est ce qu'on voulait de lui aussi, c'est ce qu'on attend de lui, c'est sa palette technique. Ou tu as un Messi qui va jouer un peu plus rapidement, qui va essayer d'un peu plus de jouer dans le tempo du jeu. Après, pour moi, c'est des spécificités de jeu. Et c'est vrai que dans le match précis qu'on a joué contre l'OM, bah, oui, Messi était plus intéressant que Neymar. Parce que forcément, l'OM te laissait quand même le temps de jouer, mais dès que tu avais le ballon, tu sentais qu'il y avait un pressing qui était fait. Mais justement, comme Messi balançait le ballon beaucoup plus rapidement, bah, ça les mettait à mal. En plus, avec la vitesse de Kylian Mbappé, c'est très compliqué. Je pense qu'avec Neymar, ça aurait été un autre match. Alors, je ne pense pas qu'on aurait perdu. Hein. Voilà, je pense qu'on aurait gagné, mais je pense qu'on aurait un peu plus de mal. Ce n'est pas pour dire que Neymar est mauvais. Attention, je répète, ce n'est pas pour dire que Neymar est mauvais. C'est juste que dans la structure d'équipe où l'OM a joué, c'est-à-dire venir essayer de presser l'équipe, etc., même si voilà, ça n'a pas forcément marché, bah, avec un Neymar qui garde un peu plus le ballon, forcément, le ballon n'aurait moins progressé. Maintenant, je voyais le commentaire de Valder qui dit, en vrai, Rui, je n'aime pas. Un mec plus technique et physique, même plus petit, serait mieux pour ce 5-3-2. Alors, oui et non. Oui, dans le sens où tu as déjà la technique. Clairement, dans cet effectif-là, tu as la technique. Hein. Tu avais Vitinha, Verratti, tu avais Mbappé, tu avais Messi. Donc, la technique, tu l'as. Donc, oui, moi, j'aurais privilégié un profil physique. Néanmoins, tu n'as pas ce profil-là dans ton équipe. Et que mine de rien, Fabian Ruiz, pour moi, il a fait un bon match. Hein. Alors, j'ai vu des gens dire qu'il avait fait un mauvais match, etc. Moi, je vous invite à revoir le match. Regardez juste les prises de profondeur qu'il faisait sur le côté droit. Pour moi, voilà, c'était seul qui prenait la profondeur dans le côté droit, le seul qui occupait l'espace là-bas. Donc oui, il a été intéressant. Maintenant, oui, si tu peux avoir plus physique, ça sera à toi de décider si tu préfères mettre Vitinha ou Fabian Ruiz. Bref, mais moi, dans tous les cas, le simple fait d'avoir une pointe basse, j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant qu'une pointe haute. Surtout en plus, au Paris Saint-Germain, on avait une double pointe haute. Donc voilà. Après, la deuxième chose qui était très intéressante pour moi, et là on va faire un petit focus parce que voilà, ce n'était pas forcément le débrief de l'OM, mais ça correspondait au sujet qui était la vie sans Neymar, c'est que le Ramos, on l'a mis en position de libéro. Alors forcément, on l'a mis là-bas parce qu'il n'y avait pas forcément d'attaquant qui allait prendre la profondeur ou autre. Alexis Sanchez n'a plus forcément les jambes.
Ah, ça a bugué, je crois. Bon, en tout cas, pour revenir sur Ramos, j'en avais parlé.
Ok, c'est moi qui ai bugué ou j'ai pas
Ouais,
compris?
vas-y, tu peux reprendre.
Ouais, ça a bugué tout seul. Alors, du coup, je disais, ouais, du coup, moi, c'est pas Nick, ça, c'est pareil. Du coup, je disais que, ouais, rien que le
Ramos.
fait de mettre Ramos, bon, on l'a vu au milieu de terrain, il y avait Marquinhos qui remontait et c'était beaucoup plus intéressant au milieu de terrain. T'en penses quoi, toi?
Ouais, ça fait comme Bemba à l'OM. Il monte beaucoup, il apporte le surnombre au milieu de terrain, il se projette même sur les côtés pour aller centrer. Et Marquinhos l'a bien fait sur le dernier match. Et je pense qu'on l'avait remarqué de toute façon, déjà, il y avait un déficit de vitesse pour Ramos sur le côté qui se faisait prendre souvent. Du coup, ça fragilisait Marquinhos qui était toujours obligé de venir compenser. Alors que là, je trouve que Ramos en libéro, il est protégé sur les côtés, il est leader de défense. Marquinhos peut se projeter. On peut avoir un Danilo, un Mukiele qui peuvent faire pareil. Franchement, c'est tout bénef.
Pour s'en priver quoi. Bah voilà, bah du coup on a fini le sujet sur la vie sans Neymar. Alors attention, hein, attention parce que j'ai vu des gens dans les commentaires dire que la blessure de Neymar est une bonne chose. Non, 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 une blessure n'est jamais une mauvaise chose. Maintenant, faut parler des bénéfices que cette blessure va t'apporter. Alors quand je dis des bénéfices, c'est pas pour dire que ouais le fait que Neymar ne soit pas là c'est bon, mais forcément il n'est pas là, donc faut trouver des axes d'amélioration, faut trouver des choses qui peuvent marcher. Et moi, je pense que la blessure de Neymar, que ce soit blessé ou sur le banc ou autre, hein, que ce soit Neymar ou Messi, il faut qu'il y en ait un des deux qui, à un moment, sorte de ce 3-5-2 si tu vas avoir une mayonnaise qui tourne. C'est
Puis même, je
pas.
trouve que ça profite beaucoup plus au jeu d'Mbappé qui en ce moment est clairement l'homme qui vole sur le terrain. Et je trouve que ça lui profite beaucoup plus parce qu'il y a plus d'espace. On part de plus bas, on a un peu plus d'espace. Même lui, il procure plus d'espace à un Messi ou un Neymar derrière lui. Et clairement, ça change tout sur le terrain. Et en plus de ça, ça joue plus vite. Et même, ça maximise tes côtés. parce que bah, on touche beaucoup plus Nuno Mendes, ou que ce soit Hakimi ou Mukiele sur les derniers matchs, mais on touche beaucoup plus les côtés aussi. Donc on est dangereux un petit peu partout. On peut être dangereux au milieu avec Mbappé, avec Messi, on peut être dangereux sur les côtés. Alors que je trouve que quand il y a le trio, ça tamponne, ça bouchonne dans l'axe, moins d'espace pour Mbappé. Messi, Neymar jouent beaucoup tous les deux dans les petits espaces, mais on ne trouve pas de solution. Il y a souvent un embouteillage. Et au final, là, je trouve qu'il y a beaucoup plus de fluidité, il y a beaucoup plus d'espace pour tout le monde. Chacun peut avoir plus d'espace dans sa zone préférentielle, que ce soit Vitinha, que ce soit Messi, avec un Mbappé qui libère de l'espace. Mbappé qui a de l'espace aussi pour prendre la profondeur, pour jouer en remise avec Messi. Et les ailiers qui sont touchés, chose qu'on ne voyait pas souvent avant. Et puis même avec ce milieu à trois, tu peux avoir Ruiz, Vitinha ou Verratti qui compensent les côtés quand les deux montent, donc quand Hakimi ou Nuno montent. Donc pour moi, c'est clairement tout bénef de jouer avec les deux.
Mais tu lui as répondu quand tu as dit que, par exemple, tu prends le jeu de l'OM, parce que c'est le même système. Attention, on n'est pas en train de dire que l'OM est l'équipe, waouh, incroyable. Hein. Pour moi, je savais très bien que Paris allait les boire, hein, qui est même pas bon. Mais tu regardes ce que tu as dit. Tu as dit que oui, le défenseur, le stopper va monter. Forcément, avec Kylian Mbappé, on ne se rend pas compte, hein, mais Kylian Mbappé, le simple fait qu'il prenne la profondeur, il libère de l'espace au milieu de terrain. Parce que si Kylian Mbappé prend la profondeur, Bemba, qui a son marquage, va lui reculer. Et donc forcément, un mec comme Vitinha, il aura plus d'espace, vu qu'il n'y aura personne qui va lui sortir dans les jambes. Vitinha, c'est pour ça qu'il était très bon à ce match-là. Parce que même Kylian Mbappé, vous ne vous rendez pas compte, mais le simple fait que Kylian Mbappé prenne la profondeur, ça permet des Marquinhos de pouvoir se projeter, ça permet des Vitinha de pouvoir se projeter. La prise de profondeur, c'est toute l'équipe qui en bénéficie. Et donc Vitinha, on l'a senti un peu, même Ruiz. Ruiz, pour moi, enfin, pour moi, je ne sais pas pourquoi les gens pensent qu'il a fait un bon match, les gars. Verratti aussi, tout le monde a fait un bon match. Ça aide à tout le monde. Alors quand c'est les pistons, c'est très intéressant lorsque les pistons prennent la profondeur. Maintenant, le problème, c'est que... ils sont pas le sens du but qu'a Kylian Mbappé. Et deuxième chose, bah, à un moment, il faudra redescendre. Contre-attaque, il faut redescendre. Donc forcément, ils gèrent leur effort. Tu peux les voir taper une vitesse à un moment, mais ils vont pas faire la prise de profondeur sur tout le match. Donc forcément, le fait qu'Kylian Mbappé prenne la profondeur, ça a beaucoup aidé tout le bloc équipe. Et on l'a vu, toute l'équipe était meilleure. Alors, c'est pas forcément Kylian Mbappé, mais juste son profil qui fait que... Bah écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour parce qu'on est revenu un peu sur le match de l'OM. Mais bon, c'est le seul match référence qu'on a, la vie sans Neymar, depuis, bah, avec les deux, hein, avec Messi et Neymar, avec Messi et Mbappé. Parce que lorsque Neymar était absent en début de saison, il me semble que Messi aussi n'était pas là. Bref, en tout cas, ils n'ont jamais été les trois ensemble depuis le retour de la Coupe du Monde. Du coup, le deuxième sujet, c'est faire tourner face à Nantes. Qu'en penses-tu? Tu penses qu'il faudrait faire tourner l'effectif? Tu penses que l'effectif type devrait jouer? Qu'en penses-tu?
Bah juste déjà pour le commentaire d'Amazig, ouais, les notes de l'équipe, faut même pas calculer. Sinon, pour le match de Nantes, personnellement, non, je ne ferai pas tourner. Sachant qu'on joue samedi soir, que le match contre le Bayern est mercredi, ça te laisse quand même entièrement dimanche, lundi, mardi pour récupérer et toute la journée de mercredi. Donc je trouve que c'est suffisant et pour moi, là, tu as eu une semaine en plus après l'OM pour préparer le match de Nantes. Donc ça laisse quand même pas mal. Il y a eu pas mal de repos, on va dire, dans ces 2-3 dernières semaines. Donc personnellement, non, je ne ferai pas tourner. Je continuerai sur la même compo et la même énergie qu'il y a eu au dernier match pour faire un match abouti contre Nantes, pour préparer le Bayern tout simplement, dans l'intensité, dans les circuits de passe, dans ce qu'on a mis en place. Pour moi, c'est rebelote faire le même match que contre l'OM et... essayer de tuer le match rapidement, pouvoir arriver à la mi-temps avec 2-3-0. Et je t'aurais mis l'équipe type jusqu'à la 60e, 65e, 70e. Et là, j'aurais fait tourner ceux qui sont fatigués. Mais personnellement, non, je ne ferai pas tourner avant ce match face au Bayern. Pour moi, il faut continuer de se mettre en confiance.
Pour moi, ce serait une folie de faire tourner là. Pour moi, ce serait vraiment une folie. T'as eu 2 jours après l'OM. Non,
il y a eu des jours de repos en plus de
Lille,
ça.
Pardon. Après Lille, tu as eu 2 jours. Après l'OM, là, tu tapes une semaine. Après Nantes, tu as 4 jours de récupération, alors qu'on sait que minimum pour un corps, la meilleure récupération possible après un match, c'est 3 jours. En sachant qu'en fait, le corps humain, je crois que c'est 2 jours. Et le troisième jour, c'est... Allez, les 2 jours, ça va être un entraînement de récupération. Et le troisième jour, tu peux avoir une opposition à la rigueur, mais une opposition légère. Donc, c'est 3 jours. Même minimum 2 jours. Les gars, tu as 4 jours. Après Nantes, avant le match contre le Bayern, tu viens de te taper une semaine et tu as eu 2 jours après l'OS. Au contraire, ça va les ramollir. Non, faut pas du tout les faire tourner. Bien au contraire, il faut que l'équipe type joue. pour qu'elle puisse monter en puissance. Et puis même si tu les fais jouer 90 minutes, ils ont 4 jours pour se, pour se reposer. Je pense que oui, tu vas les faire sortir 60e, 70e pour éviter les blessures. Forcément, si je sais pas, moi, tu mènes 5-6-0, l'équipe en face, bah, elle commence à être frustrée. Tu n'as pas forcément envie de perdre des Kylian Mbappé, des Nuno Mendes. En plus, des mecs qui, par exemple, Nuno Mendes qui est très fragile hein, depuis qu'il est en professionnel. Hein, dès qu'il se prend un coup, malheureusement, bah voilà, Verratti, pareil. Forcément, tu n'as pas envie de les perdre ces gars-là. Donc non, pour moi, ce serait une folie de faire tourner. Il faut que tu mettes ton équipe type, même pour arriver en puissance, pour que tu confirmes ton système. Parce que là, oui, on a gagné contre l'OM, ils sont en confiance, etc. Mais si tu fais un bon match contre Nantes, ça met le doute, les gars. Que tu le veuilles ou non, même si tu sais que contre le Bayern, tu ne vas pas jouer de la même façon, ça va te mettre le doute. Parce que tu dis, tu dis, mince, j'ai lutté contre Nantes. Je suis un peu le Bayern. Alors que non, pour moi, non, il faut mettre l'équipe type.
Pour la Ligue 1, pour le championnat, mine de rien.
Voilà, moi je suis au stade, je veux qu'Kylian Mbappé devienne le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Tu ne me fais jamais tourner ça, monsieur Christophe. Si tu me fais tourner ça, toi, je ne vais pas te lâcher. Hein.
Non, là on a quoi là? On a 8 points d'avance, je crois. Donc il va y avoir le match face au Bayern. Après, tu as un match en Ligue 1. On sait très bien que post-Ligue des Champions, il y a souvent des mauvais résultats. Donc tu n'es pas à l'abri de faire un match nul dans ton prochain match de championnat. Donc tu peux potentiellement perdre des points, te retrouver à aller à distance de 5-6 points d'avance. Si tu te qualifies contre le Bayern, tu auras encore des grandes échéances en Ligue des Champions, donc de la fatigue, donc potentiellement des points perdus en Ligue 1. Donc pour moi, il faut mettre l'équipe type, assurer le score, essayer de boucler le match rapidement et voilà, et continuer sur ces automatismes-là si la compo de l'OM sera reconduite et sera mise aussi face au Bayern. T'as bugué là, t'as des yeux de chinois.
Tu bugs ou quoi? T'as bugué là? Voilà. Tu m'entends?
Ouais.
Ah, je sais pas, pendant un moment ça a figé ton écran. Bref. Qu'est-ce que je disais? Bah oui, puis même dans tous les cas, si l'OM fait une contre-performance en Ligue 1, si Monaco fait une contre-performance en Ligue 1, bah, t'as l'occasion de les mettre loin. Déjà là, je crois que t'as mis l'OM à 8 points, si je dis pas de bêtises. Hein, 8 points parce que tu les as battus. Donc là, normalement, t'as un boulevard pour le titre. Hein. T'as vraiment un boulevard pour le titre. Il faut juste que Monaco fasse une contre-performance et t'as un boulevard. Donc, non, il faut pas faire tourner, au contraire. Sécurise ton titre. Et c'est bon.
Ouais, puis t'as Nantes, j'ai vu. Ils viennent de sortir Lens. Hein. Je crois qu'ils menaient 2-1 quand j'ai regardé. Donc ils ont joué encore cette semaine. Et mine de rien, avec la Ligue Europa, ils enchaînent tous les 3 jours. C'est tout le temps les mêmes qui jouent. Ils n'ont pas une profondeur de banc exceptionnelle. Donc là, tu les accueilles au parc. Ils sont fatigués, ils viennent de jouer aujourd'hui. Ouais. Tu dois les rooster très clairement, prendre le match à la mi-temps et après tu peux faire tourner en deuxième mi-temps. Mais il faut mettre la compo type dès le début.
Ouais, c'est cadeau. Bah écoutez, ça, le sujet était bouclant rapide, hein, quand même, ça va. Aujourd'hui, on fait un live un peu express. Un peu. Alors, du coup, là, ça va être un peu plus long. Enfin, même un peu plus long, au vu des blessures, je pense que ça va être rapide. Quel 11 mettre face au Bayern? Tu sais quoi? Avant même de parler du 11, je pense qu'on devrait inverser la question. On va commencer par le système et pourquoi ce système-là. Et ensuite, on passera sur le 11 type à mettre avec le système. Et pourquoi on met les joueurs sur le terrain. Je t'écoute.
Moi, je partirais sur ce même système-là parce qu'au final, c'est le match le plus abouti qu'on ait fait. Et je pense que quand tu vois la fragilité défensive marseillaise, c'est ce qui, pour moi, leur a coûté le plus cher parce que il leur manquait du monde et ils n'ont pas les meilleurs centraux qu'il puisse y avoir. Ils ont des latéraux très offensifs aussi avec Tavares notamment. Et le Bayern, c'est pas... Voilà, bien sûr, le niveau est au-dessus défensivement. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus serein non plus. Et on l'a vu à l'entrée de Kylian Mbappé, on s'est procuré énormément d'occasions. Ça a fait reculer le bloc. Il y a eu beaucoup d'espace au milieu. Donc pour moi, il faudrait repartir sur ce 3-5-2. Et pareil avec Nuno Mendes très haut qui a posé beaucoup de problèmes à Tavares qui a du coup s'est retrouvé à jouer très bas. Au final, un Nuno Mendes très haut, ça pourrait mettre un Cancelo ou je ne sais pas qui fera jouer à droite. Déjà, il n'y a pas Pavard. Donc à mon avis, ouais, ce sera Cancelo, je pense. Ouais. Mais ça pourrait avoir un Cancelo très bas qui reste un petit peu au marquage de Nuno Mendes. Et mine de rien, au final, Cancelo très bas, pas dangereux pour toi, tant mieux, c'est tout bénef. Et puis surtout, même pour la défense à 3, elle a bien marché. Tu peux mettre Danilo qui répond toujours présent, tu as Marquinhos, tu as Ramos. Ramos en libéraux, ça fera très bien le taf comme ça a fait le taf, même si je crois qu'on avait joué à 4 derrière, contre Choupo-Moting et Muller, parce que j'avais dit... Moi j'avais dit dans ma compo, même si tout le monde ne voulait pas Ramos et moi non plus, pour le coup, sur ce match, j'étais serein pour Ramos parce que Choupo-Moting et Müller, ce n'est pas les mecs les plus rapides, ce n'est pas les mecs les plus vifs. Donc, pour Ramos au marquage, c'est quand même plus facile à défendre. Et au final, Ramos a fait un gros match. Donc, moi, je repartirais sur la compo de Marseille avec ce 3-5-2, Ramos libéro, Marquinhos Danilo. Et voilà, après, je mettrais comme la même consigne que face à Tavares avec un Nuno Mendes très haut. Et puis le duo devant, tout simplement, avec un milieu de terrain classique.
Bah moi, je mettrais exactement le même système par rapport à ce que tu as dit, déjà. Première chose, parce que le match le plus abouti, c'était contre l'OM. Mais ce n'est pas forcément, pour moi, la chose la plus importante dans le système. Après, moi, c'est ma conception du football. Mais moi, j'estime que un entraîneur doit avoir 2-3 systèmes et il s'adapte en fonction de l'effectif. Alors, tu as un système type que tu vas utiliser tout au long de la saison, ça va être le 3-5-2, le 4-3-3, bon bref, c'est ton système référence. Après, tu as des systèmes que tu vas adapter en fonction de l'adversaire. Quand tu as des gros adversaires, quand tu sais que tu as des oppositions, etc. Voilà. Maintenant, pourquoi il ne charge pas? Ah oui, d'accord, il n'était pas allumé. Okay. Maintenant, on va parler du match contre le Bayern. Bah, tu regardes l'OM et le Bayern, ils jouent exactement le même système. Alors l'OM, c'est le Bayern du pauvre. C'est pas le Bayern qui va prendre les côtés, c'est pas Choupo-Moting devant, etc. Mais le système est le même. Donc c'est un test. C'est un test. En plus, l'OM, mine de rien, c'est l'une des équipes qui met le plus d'intensité en Ligue 1, en Europe. Alors, c'est pas la meilleure équipe, mais c'est une des équipes qui va. C'est un bon test quand tu joues contre l'OM. Faut dire les choses. Les mecs, ils mettent de l'intensité, ils ont la dalle, Tudor, il les fait presser, il les fait rentrer au contact, etc. Donc c'est un bon test pour le Paris Saint-Germain. Pour moi, tu avais toutes les conditions réunies pour préparer au mieux ton Bayern Munich. Je pense que c'est ce qu'il a dit. Je pense que Christophe Galtier, c'est ce qu'il a dit à cette équipe-là. Il a dit, hey, les gars, le lever papier de la première à dernière minute, maximiser les attaques, faites leur mal. Vous allez voir, c'est un test pour le contre Bayern. Je suis sûr et certain parce que les mecs étaient trop motivés. Alors, ils avaient perdu aussi le premier classico. Bon, ça, c'est le premier classico de l'année. Donc ça aussi, c'est une motivation supplémentaire. Mais voilà, tu as fait ton test contre Bayern. Même système. Tu as vu ce qui a bien marché, tu as vu ce qui n'a pas marché, tu as vu ce qu'il fallait corriger quand tu vois l'équipe du Bayern. Non, c'est une bonne chose. Et là, mine de rien, ce système, il faut le confirmer. Est-ce que c'était un coup de chance parce qu'il y avait l'énergie du désespoir, tu as perdu le classico, tu as la dalle, tu n'es pas content, tu t'es fait vanner, etc. Il y a des mecs sur les réseaux qui t'ont insulté, des mecs loxés, etc. Mais bon, bref, tu vois, il y a ça, qui t'a mal pris, etc. Ça fait que vas-y, il y a plus de ça. Et il y a aussi le fait de se dire, voilà, est-ce que ce système-là, c'est un coup de chance ou non? C'est vraiment le système que tu dois mettre en place. Pour moi, personnellement, je mettrais le même système et même contre le Bayern. Je vais exactement sur le même système. Tu regardes depuis le début de la saison. Alors, on était repassé en 4-3-3 en première partie de saison. On a vu aussi des bonnes choses. Hein, lorsqu'on est repassé en 4-3-3, faut pas se mentir, on a vu de belles choses. Mais on a vu que ça bridait certains joueurs. Ça a bridé certains joueurs, le 4-3-3, Vitinha, ça a bridé un peu plus Marco Verratti, alors que je n'ai pas compris, hein, de base, de Marco Verratti, le 4-3-3, c'est parfait pour lui, pourtant ça le bridait. Ça a bridé un Neymar, mais bon, Neymar n'est pas sur le terrain. Messi était un peu moins tranchant offensivement. Le seul qui était mis en avant, c'était Kylian Mbappé dans le 4-3-3. Tous les autres joueurs restaient bridés. La défense, tu te faisais trouer facilement, etc. Alors que les seules sérénités que tu as eues depuis le début de la saison, c'était le système que tu as mis contre l'OM, à part lorsque tu as eu le retour de la Coupe du Monde où voilà, les mecs ont appris d'autres préceptes de jeu, ils sont revenus avec d'autres préceptes dans la tête, ça n'a pas forcément fonctionné dès le début. Mais les meilleures garanties que tu as eues, c'est dans le 3-5-2. Donc pour moi, c'est la tactique que tu dois avoir de manière référente. Le recrutement a été basé sur cette tactique-là. Tu vois. Donc pour moi, c'est normal, Verratti, une arnaque, plus les années passent, plus il régresse. Ah ouais, toi t'es fort, toi. Toi, en vieillissant, tu deviens meilleur. Genre, t'es du vin, toi. Genre, t'es comme le vin. Non, frérot, quand tu vieillis, forcément, tu perds en intensité. Tu me dis, Verratti, une arnaque, c'est celui qui a le plus couru contre l'OM. C'est celui qui a fait, c'est le milieu de terrain, même si Vitinha était beaucoup plus tranchant offensivement, bah, les mecs ont été meilleurs parce que Verratti faisait un très bon travail au milieu de terrain. Marquinhos faisait un très bon travail. Donc forcément, ces mecs-là ont pu être très bons. Donc non, Verratti,
il a fait connu une période de moins bien. Après, voilà, il a fait un bon dernier match. On va voir ce que ça donne contre le Bayern. C'est là où on l'attend. Même contre Nantes, mais bon, après voilà, ça arrive à tout joueur de connaître une période de moins bien. On l'a noté, hein, de toute façon, même si Verratti, on l'adore tous, clairement, on l'a remarqué qu'il était moins bien. Maintenant, ça arrive à tout footballeur. On verra bien s'il arrive à bien se reprendre. En tout cas, au dernier match, il a été très bon, il a été meilleur que d'habitude. Sinon, faut voir avec. C'est vrai que Hakimi, mine de rien, physiquement, on ne sait pas. Il y a l'histoire là avec la petite là, avec la meuf. Donc, est-ce qu'il va être bon pour jouer ce match, remis physiquement, mentalement, etc. Je me pose la question. Mais mine de rien, heureusement qu'on a Mukiele, parce que Mukiele, ça peut, si physiquement il est au top, il est affûté, ça va nous faire du bien face à Davis, qui quand il est rentré au match aller, nous a fait beaucoup de mal. Donc avoir un Mukiele, mine de rien, sur le côté, avec un Marquinhos ou un Danilo aussi de son côté, ça peut faire du bien face à Davis. Et justement, d'avoir un Nuno Mendes de l'autre côté très haut, du coup, ils vont se remettre. Si tu vois un Cancelo qui reste un peu au marquage, comme a pu faire Tavares, et qu'au final tu t'en remets à Davis, mais qui est bien pris par Mukiele et un autre défenseur en milieu qui l'aide, ça peut être tout bénef. Dans un très beau monde, hein, évidemment.
Verratti, fort grâce à Mota, depuis pas ouf, mais t'es sérieux toi? Il t'a fait un match de fou, il a pocket Kroos, Modric et je sais plus comment il s'appelle le dernier, Casemiro, en un seul match, pendant 50 minutes d'ailleurs. Il t'a pocket City aussi, l'année dernière, contre City. Il fait alors City est très, très fort offensivement, mais Verratti leur fait extrêmement mal en phase de transition rapide. Déjà rien que je te parle de rien que l'année dernière, après je vais pas remonter non plus, tu vois, mais... N'abusons pas, Chaoui, quand même. Là, tu vas un peu loin quand même. Depuis Mota, c'est-à-dire depuis 2017, Verratti est mauvais. Ouh, tu t'aventures dans un truc un peu compliqué pour toi, frérot. Hein. Moi, la vraie interrogation sur le système, alors là, on va passer sur le 11 plutôt, c'est plutôt la défense. Qui je mets libéraux? Toi, tu vois qui en libéraux? Tu préfères Ramos ou Verratti?
Moi, je vois en ou Verratti.
Ou Marquinhos.
Marquinhos. Non, moi, libéraux, je mettrais Ramos. Je mettrais Ramos parce que déjà, il a fait un gros match contre le Bayern. Donc pour moi, il a très bien marqué Choupo-Moting et Müller. Il n'a pas eu de soucis, il a très bien défendu. Donc rien que par rapport à ça, déjà, je lui accorde ma confiance. Et surtout, par rapport au dernier match aussi, où on se rend bien compte que libéraux, c'est sa place et ça fonctionne bien. Et même pour les deux autres à côté, Marquinhos et Danilo ont fait un gros match aussi. Marquinhos se projette, ça aide au milieu de terrain. Il se projette même devant, on l'a vu dans la surface frappée. Donc, c'est important tout ça. C'est hyper important dans un match, des dépassements de fonction. On l'a vu face à Marseille, il y avait toujours plusieurs solutions. Franchement, c'est rare dans les matchs du PSG ces derniers temps de voir le porteur de balle avec plusieurs solutions. Et pour le coup, c'est pas étranger à ça. Je trouve que les projections de Danilo Ramos ont bien servi. Et ça a permis à toujours avoir plusieurs solutions. Et contre le Bayern, ce ne sera certainement pas de refus. Et puis, il avait déjà fait un gros match contre le Bayern. Donc, moi, je lui fais confiance en tant que libéraux. Et puis, son expérience aussi, forcément.
En fait, moi, elle a l'interrogation. Elle a l'interrogation parce que, mine de rien, le Bayern, ils vont prendre quand même la profondeur.
Merci ils beaucoup pour le commentaire, Eric.
Ils vont prendre beaucoup plus la profondeur que l'OM. Et c'est vrai que Ramos, en tant que libéraux, c'est lui qui doit couvrir derrière ses stoppers. Sa vitesse, ça va faire défaut. Quand tu vas prendre des prises de profondeur de Kingsley Coman, alors en termes physiques, hein, je pense qu'il peut museler Choupo-Moting. C'est pas pour dire que Choupo-Moting est mauvais, mais Ramos a la capacité athlétique et physique pour pouvoir museler le Choupo-Moting. Maintenant, dans la prise de profondeur, c'est là où vraiment je pense que ça va pêcher, et je pense que c'est là où moi personnellement je me dirais que ça va être compliqué pour Ramos. C'est pour ça que là j'ai vraiment les fesses entre deux chaises, pour être poli. J'ai aucune idée, mais moi je partirais sur la même structure d'équipe que l'OM, mais je vois les manques que tu vas avoir dans la prise de profondeur. Donc est-ce qu'il n'y aura pas un jeu qui sera mis en place comme on l'a vu contre l'OM, où des fois il y aura des moments où ils vont intervertir leur position, un coup il sera libéraux, l'autre sera stopper, etc. Je pense qu'ils peuvent le mettre en place, ou alors tu peux avoir le stopper qui couvre derrière le libéraux, mais ça va créer des brèches, beaucoup de brèches, ça va être un peu du bricolage. Donc attention, faire très attention. Il faudrait que vraiment Ramos fasse le match comme il l'a fait au match aller. Hein. Un très bon match, toujours être concentré. Alors je pense qu'il va mettre son habit de Ligue des Champions, son smoking, mais faut faire très attention parce que les alors j'ai vu que le Roi Sané a un problème à la cheville, donc il devrait peut-être ne pas jouer. Mais il y a quand même Gnabry, Kingsley Coman, Davis, comment il s'appelle déjà, Cancelo, etc. Ces mecs-là aussi vont prendre la profondeur. À un moment, ils vont rentrer dans la surface de réparation, en sachant que tu vas devoir aussi museler le Choupo-Moting qui est en feu depuis le début de la saison. Faire quand même attention quand même. Faire quand même
ouais, mais
attention.
je trouve qu'en justement en position de libéro, ça le protège quand même un peu plus de ça. Parce que avant que ça arrive à lui, logiquement, tu as quand même à gauche Nuno Mendes, Danilo. Et avant que ça arrive à lui à droite, tu as Mukiele et Marquinhos. Donc je trouve que ça le protège quand même et ça le laisse lui vraiment au duel dans l'axe avec Choupo-Moting ou avec un Müller qui rentre. Tu vois. Ça l'expose moins, je trouve, sur les côtés de le laisser au milieu en libéro. Alors que sur un côté, si un Nuno Mendes se fait prendre dans son dos ou un Mukiele se fait prendre dans son dos, derrière, c'est Ramos qui vient, tu vois. Et là, ça peut poser un problème, je trouve, niveau vitesse. Alors que de le mettre vraiment libéro, je trouve que ça le protège. Et tu as quand même un premier rideau avec les latéraux et un deuxième rideau avec les stoppers pour protéger Ramos. Donc personnellement, je le préfère dans l'axe quand même. Et puis surtout qu'on va jouer un petit peu en bloc bas hein, contre le Bayern, hein, je pense. Hein. On sera déjà contre l'OM, on n'était pas forcément en bloc médian. On était souvent en bloc bas. Et je pense que contre le Bayern, inévitablement, on va se retrouver en
Rapide,
bloc souvent bas. Donc je trouve que ça protège encore plus Ramos, puisque ça nous évitera normalement de se faire prendre dans le dos, quoi.
contre l'OM, on a joué la transition rapide. Clairement, on a complètement joué la transition rapide. Alors, ça se voyait pas, peut-être pas forcément parce qu'on avait beaucoup de phases de possession, mais comme je dis souvent, quand tu passes uniquement sur les côtés, que tu joues en triangle, c'est que tu joues la transition rapide, exactement le même jeu que Pochettino, mais d'une meilleure manière, je pense. Mais voilà, la transition rapide sur les côtés, les petits jeux en triangle pour pouvoir désactiver. En plus, les gens nous touchent surtout. On a vu Mukiele qui a fait énormément de bien. Donc non, je pense qu'on va jouer de la même façon. Après, tu as une autre possibilité aussi, c'est de mettre Marquinhos à droite, Mukiele dans l'axe et Ramos en libéro. Alors moi, personnellement, je préférais continuer sur la même structure qu'on a mis, c'est-à-dire Danilo, etc. Mais tu as cette possibilité-là. On va passer au système. On va passer au 11, pardon. Quel est le 11 que tu mettrais contre l'OM et pourquoi du coup?
D'ailleurs, idéalement, en vrai, Danilo ou Marquinhos en libéro avec un Mukiele même dans la défense centrale et Hakimi à droite, c'est pas mal aussi, tu vois. Mais bon,
D'accord
après
avec
là,
toi.
avec les blessés et tout ça, c'est compliqué. Tu m'as dit quoi? C'était quoi la question?
Le 11 que tu mettrais en place. Hey, mais attends, depuis tout à l'heure, j'aime pas mon casque. Est-ce que tu entends quand tu parles à l'oreille?
Non, j'ai pas d'écho.
Ah ouais, c'est bon, parce que j'ai mis... Bah, c'est parfait. Vas-y.
Le 11, je repartirai quasiment sur le même que Marseille, Donnarumma, défense centrale à 3 avec Danilo à gauche, Ramos dans l'axe, Marquinhos à droite, Nuno Mendes à gauche. Après, il faut savoir Hakimi Mukiele, mais vu ce qui se passe, vu sa condition physique, problème, je crois, à la cuisse qu'il a Hakimi, plus l'histoire avec la meuf et tout, je mettrai Mukiele, je pense. Et puis milieu de terrain, je repartirai sur le même milieu de terrain en vrai. Avec Verratti, Ruiz et Vitinha, qui mine de rien ont fait un énorme boulot. Ils ont énormément couru, ils ont récupéré des ballons, enfin ils ont disputé des duels et ils ont mis de la hargne comme dans un vrai classico. Donc comme quoi ils sont capables de le faire plutôt que d'esquiver les duels comme le fait souvent Ruiz. Et puis mine de rien, ouais, il y a eu un gros abattage physique, ils ont énormément couru. Et puis ils ont la qualité technique pour garder le ballon par séquence, proposer aussi, ils sont souvent en mouvement, même si Ruiz, des fois c'est un peu lent. Mais Vitinha, c'est quand même très intéressant. Il se rend très souvent disponible, encore plus quand il n'y a pas Neymar qui bouchonne la zone. Donc je repartirai sur ce milieu de terrain-là. Zaïre Emery pourrait faire du bien aussi en rentrant à la place d'un Ruiz. Ça apporterait une touche physique. Mais bon, c'est vrai qu'il est quand même encore jeune pour démarrer un match retour comme ça. Après, il n'a pas toujours été mis dans les bonnes conditions quand il a joué, malheureusement. Il a été baladé partout. Mais je repartirai sur le même milieu de terrain et puis sur le duo devant Messi Mbappé tout simplement. Après, en même temps, avec les blessés, le manque d'effectifs, les remplaçants qui ne sont pas forcément bons, bon, tu peux pas faire grand-chose, quoi. Et toi?
Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Hein. Si le 11 que je mettrais exactement le même 11, en espérant qu'on n'ait pas encore de blessures sur ton défense centrale, parce qu'on va faire jouer qui? À un moment, je pense qu'on va commencer à faire jouer Verratti à un moment défense centrale si on continue comme ça. Mais ouais, là, ça serait. Si t'as encore une blessure, ce serait très. Ah oui, t'as Mukiele, t'as récupéré Mukiele. Donc, à la rigueur, tu pourrais mettre Mukiele là-bas. Mais moi, oui, moi, je repartirais sur le même 11. Et je ferais pas jouer
Hakimi.
Hakimi. Pour qu'il ait la tête au football. Hein. Après, bon, personnellement, comme vous savez, si on parle que football, donc on ne reviendra pas sur cette affaire. Hein. On laisse la justice faire. Mais oui, je mettrai pas Hakimi pour que l'équipe ait la tête au match. Alors, je pense que Hakimi, c'est un grand garçon, mais bon, une telle affaire, bah, malheureusement, voilà, il n'aura pas forcément la tête au football. Alors, malheureusement, s'il est coupable,
Normal.
attention, hein, je suis en train de dire, c'est ça, je suis pas là, comme je l'ai dit, on n'est pas là-bas. pas là-bas. Moi, je vous dis juste pas du Paris Saint-Germain, du football. Donc non, je ne le ferai pas, je le ferai pas jouer. Maintenant, verra. Hakimi va jouer contre Nantes, de ce que je vois là, de la part de Cyril. Oui, j'ai vu qu'il avait repris l'entraînement. Donc s'il joue, on verra s'il fait durant ce match-là. Mais moi, j'ai beaucoup aimé Mukele parce que il a été très bon. Il montait pas très haut. Par contre, ce qu'il faisait, c'était que à la transition rapide, il envoyait le ballon de manière rapide. Et donc Kylian Mbappé, qui était à l'opposé de offensivement de lui, forcément, il se régalait. Il se régalait, tu n'avais qu'un seul appel, etc. Et puis, tu l'as vu, hein, Fabien Ruiz qui lui prenait la profondeur côté droit. Et non, il se plaçait côté droit. Ça faisait très très mal à l'adversaire. Donc non, je pense que je mettrais exactement le même 11. À part si vraiment je verrais ce que Hakimi va faire contre Nantes, si vraiment dans ce système-là, il est toujours efficient. Alors je pense qu'il le sera, hein. ça reste un des top latéraux du monde. Maintenant, faut voir parce que Mukele a fait une bonne saison et même là, son dernier match, il a été très intéressant en retour de blessure. Donc attention à Hakimi.
Ouais, puis mine de rien, on n'a pas 18 milliards de choix. Si tu regardes, tu veux mettre. Tu peux rien faire. Et du coup, il va falloir espérer que ça ne se blesse pas contre Nantes parce que. Pour le coup, c'est vrai que le meilleur à faire, ce serait de mettre les titulaires et de faire un gros match et à la limite de faire sortir, comme on a dit, 70-75. Mais c'est vrai qu'il ne faut vraiment pas que des joueurs se pètent parce que tu perds un Nuno Mendes, ça fait du mal. Tu perds un milieu de terrain, tu dois te retrouver avec Zaïre Emery. Tu perds un défenseur, tu es obligé de mettre Mukiele derrière et mettre Hakimi à droite. Tu perds un mec devant, tu as Ekitike ou Solaire. Il va falloir éviter les blessures, très clairement.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, les blessures. Franchement, là, si on a encore une blessure, là, c'est chaud. Hein. Franchement, ça serait vraiment très chaud. Mais bon, je préfère ne pas y penser. Là, pour moi, il n'y a pas de blessure. On est bien. Bon, il y a des marqués blessés. On espère qu'il revient. Mais pour moi, il n'y a pas de blessure. On va pas se mettre les. Quels sont pour toi les... Ah, je passe du coq à l'âne, hein. Quelles sont pour toi les clés du match contre le Bayern?
Je pense que ça va être exactement comme les 20 dernières minutes, en vrai, qu'on a fait. Il va falloir être solide déjà dans nos temps faibles. C'est un truc que cette saison, on n'a pas su faire très souvent, savoir encaisser des vagues et rester solide. On prend souvent des buts, on encaisse beaucoup d'occasions. Mine de rien, même quand on fait des gros matchs, on encaisse quand même des occasions. Donc ça, c'est inéluctable, on va les avoir. Après, Donnarumma est quand même capable d'en sauver 3 ou 4, il faut le dire, même s'il y a des fois, il y a toujours un moyen de discuter. Mais bon, je trouve qu'il fait quand même de grands arrêts, il faut le dire. Donc il va falloir encaisser le moins de vagues possible, savoir faire le dos rond dans nos temps faibles, puis dans nos temps forts il va falloir marquer tout simplement, mais surtout ça va nous permettre, si on fait le même match qu'à l'aller et qu'on reste solide comme on est, qu'on arrive à bien museler les côtés, et puis même si les côtés passent, en vrai, si tu arrives à bien museler les mecs qui reprennent les centres, que tu occupes bien ta surface, qu'il y a du monde, normalement, si tu es présent dans les seconds ballons, à la réception des centres ou quoi, il y a eu énormément de centres du Bayern qu'on a repris. Donc, il va falloir être bon dans les duels aériens aussi, chose que on n'a pas su faire beaucoup de fois encore cette saison. Mais en tout cas, contre le Bayern, on a réussi à le faire, sauf malheureusement ce but de Coman. Et puis surtout, devant, être clinique. Mais là, le travail d'Mbappé va être important parce qu'il va falloir que ça libère des espaces. Maintenant, on a une chance, c'est que au-delà du profil d'Mbappé, c'est Mbappé. Et Mbappé fait extrêmement peur, c'est la vérité, c'est une réalité. Et quand tu vois le changement d'attitude des défenseurs et de l'équipe du Bayern au match aller quand il est rentré, et ça a libéré des boulevards, vraiment. Et quand tu vois la sérénité défensive du Bayern, les latéraux qui sont très offensifs et qui défensivement ne sont pas les meilleurs, au final, tu sais que tu vas avoir des occasions, tu sais que tu vas avoir les espaces, et c'est là où il va falloir les mettre au fond. Et on va compter sur un Mbappé de gala, même un Messi qui, mine de rien, nous doit quand même une performance référence en Ligue des Champions. Parce que à part ce match face à City et ce magnifique but, il n'y a pas eu grand-chose. Et cette saison, il n'y a rien eu, malheureusement. Bon, après, on peut compter Maccabi Haïfa et compagnie, mais voilà. Contre le Real, il rate un pénalty aussi. Après, c'était un naufrage collectif, mais il rate quand même un pénalty à l'aller. Et donc, il va falloir qu'ils fassent un match référence aussi avec Mbappé. J'espère qu'ils réaliseront le même match qu'ils ont fait, la même efficacité que contre Marseille. Mais si c'est le cas et qu'on arrive à être solide derrière, à repousser les centres et à bien gérer les côtés, pour moi, on s'en sortira, j'en suis certain.
Ah, bien sûr. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais après, Kylian Mbappé va avoir un client face à lui. Hein. Ça ne va pas être Bailly qui est fou. Bailly. Est-ce que tu as vu la vidéo petit aparté de Mbappé qui met une petite feinte à Balerdi et Bailly? Les gars, ils n'en pouvaient plus.
Non, non, je l'ai vu passer le titre en plus, mais j'ai eu la flemme de regarder. Par contre, quand tu vois les démarrages d'Mbappé, quand tu vois Bailly, comment il est à la ramasse, ça fait de la peine. Ça, j'ai vu la compile, ouf.
Mais quand Nuno Mendes et Mbappé faisaient leur truc sur le côté, je me dis, mais miskin. Alors imagine que tu leur rajoutes Hakimi. Ah non, ils ont pété un câble. Ils ont pété un câble. En plus, Messi, on le sait, hein, quand Neymar n'est pas là, il joue beaucoup plus collectif avec tout le monde. Hein, donc,
Ouais, puis même défensivement, Cancelo à droite, c'est sur le côté Nuno Mendes, il peut l'exploser, Nuno Mendes. Hein. Mbappé, pareil. Et puis là, je crois que tu auras De Ligt dans l'axe. Et tu auras, je sais plus comment il s'appelle, Nastasic, je crois.
j'oublie leur petit jeune là.
Ouais, Nastasic, je crois. Donc voilà, c'est pas le top défense. Quand tu as le côté João Cancelo, Nastasic, tu as au milieu, tu as De Ligt qui n'est pas le meilleur défenseur. Franchement, tu as de quoi faire quand même.
Après, la différence, c'est que je pense côté droit, tu n'auras pas un no man's land comme contre l'OM. Le
Ah oui,
côté
c'est
droit de
sûr.
l'OM, waouh. Même à un moment, Marquinhos s'est dit, bah tu sais quoi, je prends la profondeur, tiens, je vais tenter du milieu. Même Fabien Ruiz, je l'ai jamais vu prendre la profondeur de sa vie. Fabien Ruiz qui prend la profondeur, les gars. On parle de Fabien Ruiz. Et j'étais choqué. J'ai regardé tous les matchs de Naples, je n'ai jamais vu prendre la profondeur. Jamais ce gars-là, il fait un appel dans la cour. Il va prendre le ballon, il va se projeter en avant, en mode box-to-box, mais jamais je vais le voir faire
Stanisic,
un
même.
appel. Ah ouais,
Nastasic, c'est les mecs de Schalke, ça.
Impressionnant. Bah après, moi, sur le 11, bah, gardien Donnarumma. Libéro, je mettrais quand même Ramos. Je pense que je continuerai sur ce système-là. Marquinhos, Danilo sur les côtés. Bah après, Mukiele, notre ami Nuno Mendes. Au milieu de terrain, Fabien Ruiz, Verratti, Vitinha. Et après, je mettrais Lionel Messi, je mettrais Kylian Mbappé. Je mettrais le même 11. Franchement, je ne prendrais pas la tête, je mettrais le même 11. Ça a très bien fonctionné, pourquoi changer? Dans tous les cas, t'as pas 100 000 profondeurs de banc, donc tu vas changer, pourquoi faire? Ça n'a pas rien de changer.
Ouais, puis garder la même mentalité aussi contre Marseille, mine de rien, on a vu un autre visage du PSG hein, qu'on avait rarement vu cette saison, si ce n'est jamais. Franchement, ils ont fait un match de bonhomme, ils ont couru partout, ils ont mis de l'intensité, ils ont mis des tampons.
Rico the joined. Hop, t'as bugué?
J'ai bugué?
J'ai bugué. Ouais.
Ah merde. Ouais non, je disais que bah, contre l'OM, ils avaient fait un match de bonhomme. Et ça, c'est important, la mentalité, l'envie. Si tu refais le même match contre le Bayern avec la même intensité, et franchement, ça peut largement le faire.
Bien sûr. En sachant que là, tu auras les côtés beaucoup plus forts. Hein. Tu auras Hakimi qui va prendre la profondeur à la vitesse. Tu auras Nuno Mendes qui est une fusée. Tu as Kylian Mbappé qui est une fusée. En seconde période, tu as la possibilité de faire rentrer le petit Zaïre Emery qui lui prend la profondeur sur le côté aussi. Donc non, non, tu vas pouvoir maximiser tes attaques sur le côté. Et en plus, bah, comme j'ai dit hein, au début du match, au début du live, quand on a parlé de la blessure de Neymar, bah, tu n'auras qu'un numéro 10. Pour moi, c'est un non-sens de jouer avec deux numéros 10. Hein. La seule fois que j'ai vu ça, c'est dans Olivier Tom. Avec Olivier Hatton et Ben Becker, pour ceux qui connaissent. Mais ouais, j'ai jamais vu une équipe comme ça après. Voilà. Donc là, tu n'en auras qu'un. Donc ça va, le ballon va progresser beaucoup plus vite. Et mine de rien, tu n'as qu'un but à remonter. Tu n'en as pas 10. Un but à remonter, quand tu as deux équipes offensives, je pense qu'il y aura des buts. Voilà. Je pense que ça va jouer avec qui va marquer le plus. Donc non, non, pour moi, ça va être. Pour moi, c'est. Je ne veux pas dire que c'est une formalité, mais bon, pour moi, les clés du match, ça va être bah, comme on l'avait à l'OM, hein, Kylian Mbappé, la prise de profondeur. Le fait que Messi garde le ballon beaucoup plus rapidement. Alors je pense qu'il y aura beaucoup plus de technique au milieu de terrain. Donc il va falloir gagner aussi cette bataille technique au milieu de terrain. Parce qu'au physique, je pense qu'ils vont la gagner comme d'hab. Mais la capacité technique, tu as la possibilité de le faire. Il faudra le faire. Ce n'est pas la possibilité, c'est tu dois le faire. Voilà. Bah, on peut passer aux questions-réponses, les gars. Hein, parce qu'on a fait un live bah, de base. On fait des lives d'une heure et demie. On a 48 minutes. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner aussi, à activer la cloche, à aller faire un tour dans la page de Ricoba. Et pour le moment, non, je pense qu'on en allez, on fait 12 minutes de questions-réponses. Je pense que ça
Vas-y.
devrait être bon pour un live d'une heure. Et puis je pense que tout le monde sera content. Vous rêvez, les gars, le Bayern, c'est pas Marseille. Bah, logique, on n'a pas dit que le Bayern était Marseille.
Ah,
Hein.
ça va être un match difficile, mais voilà, par rapport à leur qualité et nos qualités à nous, quand tu vois les 20-25 dernières minutes qu'il y a eu, bah, et on peut faire jeu égal. Hein. Ça reste un match de foot
T'inquiète.
en plus de ça. Hein.
Bah oui. Puis comme on l'a dit, hein, même si le Marseille n'est pas le Bayern, alors forcément c'est un cran dessus, hein, même deux crans même. Mais ils utilisent le même système. Donc forcément, les techniques que tu as travaillées, ce sera les mêmes que tu vas travailler contre l'OM. Donc non, c'est un bon test, bien au contraire. Alors, Nigma, t'inquiète, hein, tu as tout raté, t'as rien raté. Je te rappelle que la vidéo, Le live sera sur Paris Central. Tu pourras revoir le live autant de fois que tu veux, mon ami. J'espère que
Tu
tu vas
vas dans
liker.
la sur la chaîne, dans l'onglet en direct, et tu auras la vidéo, tu auras tout.
Oh, la vidéo, t'inquiète, tu verras ma sale tête. La clé du match va être le milieu de terrain. Oui, mais pas que, parce que le milieu de terrain, pour moi, il est dépendant de l'attaque. La prise de profondeur, comment le ballon va progresser rapidement en attaque, non, oui, mais la clé du match sera le milieu de terrain.
Ah, pour
Comment
moi, la clé
toi?
du match, elle va être dans les deux surfaces, en fait. Et à qui va être, on l'a dit, il y aura beaucoup de buts, et c'est vraiment à qui va être le plus prolifique, qui va marquer sur ses temps forts, qui va réussir à garder sa cage le plus inviolée possible. C'est surtout là où ça va se jouer, moi, je pense. Et les côtés, surtout les côtés, tu as deux équipes qui ont des latéraux monstrueux, qui jouent beaucoup sur les côtés. Donc, elle est là aussi la clé, tu vois. Je trouve que quand tu as des équipes en 4-3-3, tu vois, des équipes comme le Real, qui s'affrontent, il y a vraiment une vraie bataille du milieu. Et quand il y a la bataille du milieu, ça change le match. Mais là, je trouve que les équipes sont tellement bien équilibrées et ont des points forts un petit peu partout. Le Bayern, c'est plus aussi dominant aussi au milieu de terrain qu'avant. Donc, bah, mine de rien, tu as énormément de clés en fait dans ce match-là, et pas que le milieu de terrain.
Ouais, mais complètement d'accord avec toi. Il y a énormément de clés. Maintenant, comme l'a dit, alors, je crois que c'est ouais, Hervé, comme il a dit Hervé d'ailleurs, très bon nom de famille, Hervé. Hervé Ngamba, toi, je crois que tu es congolais, toi. Je reconnais très très bien. J'aime ces noms de famille, le pays moteur. J'aime. Je sais que tu es congolais, toi, je te sens. Non, plus blague à part. Je sais plus ce que je voulais dire. Je vois, je fais l'idiot, je ne sais
Ouais,
même plus.
mais c'est ça, Cyril, c'est marrant parce que ça, c'est un truc que je comprendrai jamais. C'est quand tu vois déjà, on a là, pour le coup, pour ce match, on va se retrouver avec sûrement Danilo Ramos, Marquinhos. Donc déjà, sur corner offensif, tu peux clairement marquer. Mais sur corner défensif ou un centre dans le jeu aérien, défensif, on est souvent pris. Et ça, c'est incompréhensible. Un Marquinhos, par exemple, offensivement, il gagne beaucoup de duels dans la surface adverse, mais défensivement, non.
Ouais, bah après, défensivement aussi, il y a le pénalty aussi, il y a les pénalty. Attention, bah, c'est pour ça
Oui, à pas faire
il
faute, ouais. Ouais, tu peux arriver
Bah
plus
voilà,
comme un sauvage.
c'est ça. Hervé a dit, le PSG dans un bon jour est meilleur que le Bayern. Moi, je suis sûr et certain. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Le PSG n'a rien à envier à ce Bayern-là. C'était à ça que je voulais répondre. Et par rapport à ce que je viens de dire, je crois que c'était Cyril, c'est ça? Par rapport au corner. Ouais, ça, c'est une folie parce que c'était une grosse force. Lorsque Cavani était là, lorsque Thiago Silva était là, ça a été une force. Lorsque Cavani est parti, ça a toujours été une force. Thiago Silva, mais depuis le départ de Thiago Silva, tu as Marquinhos, tu as Danilo, tu as Ramos qui sont des bons joueurs de tête. Tu as même Kimpembe qui peut être un bon joueur de tête. Et il n'y a aucun but de la tête. Je comprends pas. Tu vois? Tu avais Icardi qui en mettait de temps en temps, mais tu vois, tu avais. Surtout au corner, hein, je ne te parle pas vraiment. Tu vois, dans les centres, etc., tu n'as pas forcément le numéro 9, donc c'est compliqué, mais voilà, en corner, etc. C'est devenu. Après, en même temps, c'est normal, depuis l'arrivée de Neymar, il y a le corner à deux qui me saoule là. Le corner à deux, là, je
Ouais.
sais pas quoi. C'est depuis l'arrivée de Neymar, ça on le fait, le corner à deux, j'ai pas compris. Faut l'arrêter à un moment. Il n'y en a jamais un qui est passé. Il y en a un qui est passé cette saison. Un, il me semble. Si je dis pas de bêtises.
Ouais, c'était pas en Ligue des Champions, un truc comme ça vous
Ouais.
dit quelque chose?
En six
Donc
ans,
ça devait être genre en
il n'y a jamais
octobre.
rien qui est passé. En 6 ans, il n'y a jamais rien qui est passé. Je sais pas pourquoi on continue ce truc-là. Je comprends pas. Après, il y avait une autre question de James qui dit si on se qualifie contre le Bayern, vous voyez Paris se qualifier en demi de LDC.
Ah, ça dépendra du tirage, hein, forcément. Mais tu passes le Bayern, tu peux passer tout le monde. Pour moi, en plus, cette année, je trouve que bah, c'est très ouvert. Franchement, je trouve qu'il n'y a pas forcément un favori qui se dégage. Alors forcément, tu as les grosses équipes habituelles, habituées à gagner, habituées à aller loin, le Real, Manchester City, le Bayern, de par leur effectif, leur expérience, etc. Mais je trouve que c'est des équipes qui sont quand même pas forcément très rassurantes cette année. On le voit en championnat, que ce soit City ou le Bayern, le Real. Donc ça se jouera sur une confrontation directe qui peut vraiment tourner d'un côté comme de l'autre. Et on l'a vu avec le Real l'année dernière. Tous les matchs, ils ont tourné d'un rien à chaque fois. Il y a eu énormément de buts. Au final, ils gagnent une Ligue des Champions, mais avec des scénarios rocambolesques. Donc cette année, pour moi, c'est un peu pareil. Ça reste très ouvert et tout le monde peut gagner. Tout le monde peut battre tout le monde. Il y a des petites équipes aussi, sans manquer de respect, comme Naples, par exemple, qui peuvent aussi créer une surprise. Donc pour moi, tu sors le Bayern, tu peux très bien aller en finale gagner, comme tu peux très bien te faire sortir au tour d'après.
Moi, je dis ouvertement, je pense que cette année, le gagnant sera encore le Real. Hein. Je pense que c'est là que le Real va. Je le dis ouvertement, je pense qu'il va encore sécuriser une Ligue des Champions.
Ce serait
Le
fou.
niveau est extrêmement bas. J'ai un peu le seum de Campos parce que là, c'était le moment de la gagner. Hein. Pour moi, c'est vraiment c'était l'année. Hein. Après 2020, c'était cette année-là. Toutes les équipes sont bas, à part Manchester City. Liverpool, ils vont sortir contre le Real. Le Real, même si c'est une bonne équipe, ce n'est pas une machine de guerre. Mais je pense qu'ils vont, ils vont la gagner à l'expérience. Il y a qui d'autre? Il y a Naples qui est une grosse équipe, mais bon, on sait que les grosses équipes collectives de les dernières années, ils n'ont pas réussi à gagner avec les champions. Donc ouais, je pense que ça va être encore le. Je pense que ça va être encore les Real. Après, sur un malentendu, comme le dit Fabien, oui, tu peux la gagner sur un malentendu. Je pense que si tu passes le Bayern, logiquement, tu peux battre toutes les équipes derrière. Mais le Paris Saint-Germain, on connaît. Tu bats le Bayern, tu peux perdre contre Bruges. Bruges, il passe, il tape. Parce qu'on est PSG et qu'on aime bien choke, tu vois. On aime bien, mais bon, je
pense pas que. Puis surtout, on se tape toujours des gros tirages. Donc ça m'étonnerait même pas qu'on se qualifie et on tape le Real. En demi, on tape City, tu sais, genre.
Bah oui,
Paris,
mais
c'est
tiens, moi,
pareil.
je le répète, en général, l'équipe qui bat le Paris Saint-Germain est championne d'Europe. Moi, je le répète tout le temps parce que le Paris Saint-Germain, mine de rien, c'est l'équipe à battre. Si tu arrives à nous battre, même avec le Paris Saint-Germain actuel, hein, parce que les gars, oui, il y a des failles qu'on voit depuis le début de saison, on reste une des meilleures équipes d'Europe, les gars. Même avec les failles qu'on voit, on reste une des meilleures équipes d'Europe. Donc pour moi, à partir du moment où tu as tapé le Paris Saint-Germain, tu peux taper tout le monde. Tu peux vraiment taper tout le monde. Et voilà, c'est juste ton père parce qu'on choque, hein, on aime bien choque. Hein. Normalement, ça fait normalement on a deux ligues des champions au minimum. Hein. Et comme on aime bien être des idiots, on se fait éliminer bêtement. Et tu tapes le Paris Saint-Germain, pour moi, tu peux taper tout le monde. Donc moi, si le Bayern passe, je vois le Bayern la gagner. Sinon, je pense que le Real va aller la chercher, je pense, à l'expérience. Du
On
coup,
verra bien.
vous avez plus confiance en Bernat remplaçant de Mendes ou Pembele? Bah, Pembele joue à droite.
Il joue à droite, mais Bernat à gauche. Pour... Défensivement, offensivement, il apporte un peu moins qu'avant, mais il reste très technique. Il fait souvent les bons gestes, les bons appels. Il arrive à bien remiser, faire de bons centres en retrait. Maintenant, défensivement, c'est surtout ça, en fait. Défensivement, il est tout le temps à la rue. Tout le temps, il se fait tout le temps prendre dans son dos. Il n'est jamais au marquage, au second poteau. Il laisse tout le temps un joueur tout seul. Vraiment, moi, Bernat, il nous a fait de très belles années, vraiment, mais c'est un constat, vraiment, défensivement. Offensivement, je le trouve quand même toujours intéressant. Il apporte et tout, mais défensivement, c'est vraiment pas la sécurité. Franchement, Bernat, j'ai très peur quand il est sur le terrain. Et souvent, je dis, bah, quand il rentre, bah, voilà, il y a son quota et on prend un but par match par sa faute à chaque fois. Défensivement, c'est très très dur. Après, on peut pas lui en vouloir. Il a eu deux grosses blessures, mais Bernat n'est ouais, définitivement pas rassurant derrière, malheureusement.
Il y a l'âge aussi, il y a l'âge qui tombe, je crois qu'il a 30, il avait 27, 29 ans, 31 ans, je ne sais même
Ouais.
plus combien il est, mais il se fait âgé aussi, donc ouais. Bah alors, que pensez-vous du trophée The Best? Alors franchement, on va le faire en rapide parce que c'est pas PSG. C'est une immense arnaque que leur père comme tout. Non mais tu sais, je vais être virulent, mais moi ça commence à me saouler. Je vous dis la vérité, ça commence vraiment à me saouler ces cérémonies où c'est du copinage, où tu vois l'idiot de Thiago Silva. Oui, c'est une légende de notre club. Oui, j'aime beaucoup Thiago Silva. Regardez, son nom il est là. Hein. Pour vous dire que j'aime beaucoup. Hein. J'ai un maillot flogué Thiago Silva là, qui est là, pas loin. Mais
Ah
c'est
bah
une
moi
immense
aussi,
arnaque.
il est
Ouais, j'ai un
marqué
maillot
Thiago
flogué
Silva, le
Thiago
bleu
Silva.
derrière.
Mais ça commence un peu à me saouler toutes ces cérémonies bidons où le gars se permet de mettre Neymar numéro 1. Alors Neymar, je suis très content parce que c'est un joueur du Paris Saint-Germain. Mais en quelle année, la saison dernière, il est devant des Mbappé, des Benzema, même Lionel Messi qui a fait une bonne Coupe du Monde. Je suis très content que Lionel Messi prenne le trophée The Best. Il est parisien, on est content. Mais il faut arrêter les blagues. Si Benzema ne prend pas le trophée The Best, personne ne le prend. Si Thibaut Courtois ne prend pas le trophée du meilleur gardien, personne ne le prend. Il faut arrêter. On parle de l'autre idiot là, de comment s'appelle le gardien d'Argentine, là,
Emiliano
Martinez.
Martinez, non mais ça c'est n'importe quoi.
C'était Martinelli, t'as vu, j'ai un autre qui a pris une bastos. Le gars, il a pris 100 buts la saison dernière. Comment tu veux qu'il prenne le trophée The Best? À un moment, il faut arrêter de nous prendre pour des idiots. Vos cérémonies qui se récompensent entre copinage, c'est du bidon. C'est du bidon, c'est du bidon, c'est du bidon. Pour moi, c'est clairement du copinage et c'est une arnaque. C'est vraiment une. Je ne sais même pas quoi dire. Mais en fait, ça me saoule ces trophées-là parce que c'est censé représenter le meilleur joueur de l'UEFA, le meilleur joueur qui a joué dans les compétitions UEFA. Le Ballon d'Or, c'est pareil, censé récompenser le meilleur joueur sur une année civile. Si cette année, je pense que le Ballon d'Or, vu qu'il a pris la Coupe du Monde, ils vont faire comme avec la Copa, ils vont le donner à Lionel Messi. Si Lionel Messi, vous trouvez que c'est le meilleur joueur du monde cette saison, faut arrêter les farces, faut arrêter les blagues. Il y a une saison, il fait une année complètement bidon, et le gars, je sais plus c'est quel journaliste africain, j'oublie c'est quoi le blaze,
Oui,
il dit Lionel Messi. Non mais les gars, faut arrêter, le gars finit dans le top 10 alors qu'il a fait une année complètement bidon. Faut arrêter un peu les blagues à un moment. Hey. Ça suffit.
Non, mais
C'est
ça
voté
a
là.
plus, ça veut
La
rien dire, mais
Norvège, en plus,
j'allais
c'est
dire,
une
ça n'a
fois.
plus de cette saveur, ça n'a plus de légitimité, mais en vrai, ça ne l'a jamais eu. Les votes ont toujours été ridicules. Et les mecs, ils votent toujours pour leurs potes, tu vois, c'est comme Van Dijk qui met Salah en premier. Enfin, tu vois, à un moment donné, ça veut rien dire. Donc, bon, il reste encore le ballon d'or. Il faut que le ballon d'or puisse garder cette vraie saveur. Mais après, il y aura toujours débat parce
Le
que
ballon d'or,
bah, Messi gagne une
le
Coupe du
ballon d'or,
Monde, mais Benzema gagne la Ligue des Champions. Donc, voilà, il y a Mbappé qui mérite aussi, vu les stats. Mais avant, ils te disent les statistiques, c'est pas important. Maintenant, c'est important. Voilà, ils font comme ça, les arrange, ils donnent à qui ils veulent. Et voilà.
à chaque fois ça s'arrange. Alors Iniesta ne prend pas le ballon d'or parce
Mais tu verras que
que
ça fera pareil avec Mbappé, hein. Tu verras que là, bon, il y a encore la domination Messi, mais tu verras que dans 1 ou 2 ans, Mbappé, il va tous les prendre quasiment. Et tu verras que même si un mec fait une bonne saison, tu verras que Mbappé, en faisant une moins bonne saison, il aura le ballon d'or, j'en suis certain.
faut arrêter la carotte. En 2006, il me semble que Cannavaro est blessé, je crois, 1 ou 2 mois, si j'ai pas, alors si ma mémoire est bonne,
Oui, c'est pour la Coupe du
il est
Monde,
blessé
clairement,
1 ou
alors que
2
c'est même
mois.
pas le meilleur joueur.
Il prend le ballon d'or alors que c'est même pas le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Mais soit, on veut pas le donner à Zidane par rapport à son coup de boule, pas de souci. On veut pas le donner à Thierry Henry parce qu'il a perdu des finales, pas de souci. Par contre, Cannavaro, il sort d'un chapeau. Dans ces cas-là, pourquoi, si vous voulez pas le donner à Henry parce qu'il a perdu des finales, pourquoi vous le donnez pas à Eto'o? C'est lui qui avait fait la meilleure saison individuellement en attaque. Tu regardes, et puis des années après, bah bizarrement, Iniesta se fait sucrer un ballon d'or parce qu'il a gagné le Messi, alors que c'est lui qui a gagné la Coupe du Monde. Donc en fait, on trouve à chaque fois, tu vois, je trouve à chaque fois, je le dirais Eto'o, on
Bah,
trouve à
ils
chaque
écrivent
fois
l'histoire comme ils le veulent, en fait.
une
C'est
histoire.
eux
Tu sais, moi j'aime bien.
qui...
Après, on arrêtera, on changera un peu de question, mais moi j'aime bien regarder un peu qui vote pour qui. Je vous invite des fois à regarder qui vote pour qui dans le transfert du ballon d'or. Et je vous jure, vous allez rigoler. Je vous jure, vous allez rigoler. Je vous allez rigoler. C'est une arnaque ce truc. C'est une grosse arnaque. C'est une grosse arnaque. Et puis mine de rien, tu peux même pas le faire voter par les supporters parce que c'est Lionel Messi qui gagnerait chaque année ou CR7. Donc ça n'a aucun sens en fait. Ça n'a aucun sens. Ce trophée, pour moi, la manière de juger, ça n'a aucun sens. Pour moi, il devrait avoir des critères, les stats, les équipes qui ont gagné, etc. etc. Mais ce n'est pas une année, c'est les trophées, une autre année, c'est les stats, une autre. Mais non, on fait comme on veut. C'est n'importe quoi. C'est débile. C'est débile. Lewandowski, s'est fait, pour moi, il s'est fait voler 2 ballons d'or. Hein. Il s'est clairement fait voler 2 ballons d'or.
Le pire, c'est lui le
Lewandowski
pauvre, il
s'est
n'en
fait
gagne
voler
pas.
2020. Il s'est fait voler 2021 parce que Lionel Messi a gagné la Copa. Arrêtons, arrêtons, arrêtons. Cette année, c'est quoi? Cette année, Messi va faire une saison à 25 buts, il va prendre le ballon d'or, alors que Kylian Mbappé va sûrement faire une saison à, je sais pas moi, 48 buts. Arrêtons, les gars, c'est n'importe quoi. Bref, changement de question. On revient au Paris Saint-Germain,
En
parce que
fait, le truc,
sinon.
c'est pour le juste vite fait pour le cas de Messi, qui gagne ce trophée The Best, ça me dérange pas parce qu'en soi, il peut y avoir
Pour lui,
débat, tu vois, même si. Bon, tu peux quand même l'entendre, tu vois. Mais quand tu vois Emiliano Martinez derrière, mais tu peux pas prendre la cérémonie au sérieux, du coup. Tu te dis, bah vas-y, c'est n'importe quoi. C'est tout ça.
les gars, Martinez, il a pris plus de 100 buts la saison dernière, les gars. Arrêtons un peu de nous prendre pour un idiot. Tu parles d'un Thibaut Courtois qui a porté le Real Madrid jusqu'en finale de Ligue des Champions et qui a fait gagner son équipe, parce que pour moi, ce n'est pas Benzema qui les a fait gagner, c'est Thibaut Courtois. Parce qu'il prenait des vagues et des vagues à chaque match, il prenait des vagues. Et c'est lui qui portait les arrêts. Et tu me dis, c'est Martinez qui prend le... Bah, arrêtons les farces. À un moment, il faut arrêter les farces. Faut arrêter,
Et puis quand
frère.
tu
Faut
vois la finale
arrêter.
de Thibaut
Ah
Courtois de Ligue des Champions, le mec il fait
oui.
10 arrêts, et il te fait une
Ah
énorme
oui.
saison, enfin, même s'il prend des
Le ballon
pions, il
d'or
t'en
la
sauve
saison dernière.
beaucoup.
Mais le ballon
Et
d'or
puis
la
même
saison
la
dernière,
Coupe du Monde, c'est pas forcément le meilleur gardien, hein, Martinez, hein. Il fait 7 arrêts extraordinaires en finale, mais il a pris quand même des buts. Après, il y a eu des séances de pénalty qui ont tourné en la faveur de l'Argentine grâce à lui, mais il y a aussi Bounou qui est dans la discussion du meilleur gardien de la Coupe
ah
du
oui.
Monde. Donc bon, ouais, c'est bon, après, voilà, c'est comme ça, hein.
Parce que c'est pas parce que The Best, c'est FIFA UEFA, c'est-à-dire Ligue des Champions, Ligue des Nations, etc. C'est ça. C'est pas ce qui se fait en Liga. Tu regardes toutes les compétitions, mais les gars, mais Martinez, il parle même pas avec Thibaut Courtois, les mecs.
Non mais ouais,
Bref.
non mais ouais. Non mais en vrai, il y a un moment de d'écart en vrai.
Non
C'est
mais Mbappé
ridicule.
finit sa carrière du ballon d'or, les gars.
Non,
Arrêtons.
en vrai, c'est ridicule. C'est ridicule en vrai.
Bref, venons, on change de sujet parce que franchement. Après, je suis content pour Messi parce que c'est un Parisien. Hein. Et attention, hein, on ne dit pas que son The Best est volé. Mais si vous me faites comprendre que Lionel Messi a réalisé une meilleure saison dans les compétitions UEFA, etc., que Karim
Non, il n'a pas
Benzema.
été meilleur joueur, Mbappé. Il a pris meilleur buteur. Meilleur joueur, c'était
Un
Messi, si je ne me trompe pas.
meilleur joueur, c'était Messi. The Best, bah, c'est The Best, c'était Messi. Donc, voilà. Ah oui, de la Coupe du Monde, ouais, c'est Messi.
C'est
Bref.
Messi, ouais.
mets 8 buts dans le jeu, 2 pénaltys, mais bref. Franchement, vas-y, on prend 2-3 questions, après on arrête le live.
Vas-y. Oh.
Ah non, ça c'est les histoires, ces cérémonies là,
ouais,
ça commence
mais
comment.
Oui, non, mais...
En plus, ça m'énerve parce que ça, c'est les trophées que tu regardais quand tu étais petit, tu dis waouh, c'est des trophées de fou. Moi, je me rappelle, j'avais une réplique du Ballon d'Or chez moi quand j'étais plus jeune.
Ouais, c'est des trucs mythiques et au final, ça gâche complètement. C'est dommage.
Ça gâche tout. Si tu m'expliques que Lionel Messi est le meilleur joueur de la Coupe du Monde pour avoir mis je sais pas combien de penalty à la place de Kylian Mbappé qui m'a triplé en... Les gars, c'est arrivé une fois dans l'histoire de la Coupe du Monde. Un triplé en finale de Coupe du Monde. Il te met 8 buts sur la campagne de Coupe du Monde. Les gars. Bah oui, je crois que tu avais juste Fontaine en haut et je crois un autre joueur, je crois qu'il avait mis 9 buts et je crois même pas. Je crois même pas que c'est déjà arrivé 9 buts. Je crois que tu as juste Fontaine et après c'est Kylian Mbappé.
Tu vois, ouais, Ronaldo, je crois son max c'était 6 ou 7. Ronaldo, ouais, voilà. R9, non? Je crois que c'est en 2002, je crois qu'il fait 6 ou 7.
Ah oui, Cyril, l'année dernière, le Ballon d'Or était complètement mérité pour Benzema. Ça me fait mal de le dire, mais oui, c'était complètement mérité. Il a eu Ligue des Champions, Ligue des Nations. Il a gagné quoi? Il a gagné la Liga, meilleur buteur.
Non, il n'y a rien à dire. Rien à dire.
Alors, je crois que c'est Mbappé le meilleur buteur sur l'année civile, la saison dernière.
Pour Sadio Mané, je crois qu'il a joué contre l'Union Berlin. Mais il va jouer en championnat encore. Je pense qu'il va enchaîner. Après, ouais, je pense qu'il va jouer. Je sais pas, ça va dépendre de Nagelsmann, mais je pense qu'il pourra débuter, je pense. Je pense qu'il pourra débuter. Après, il a manqué beaucoup de temps quand même. Donc, est-ce qu'il a les jambes pour jouer à l'intensité d'un match retour de Ligue des Champions? Je sais pas. Mais il y a moyen en vrai, il y a moyen parce que là il va avoir un match pour jouer encore, il va avoir peut-être du repos aussi après. Je ne sais pas quand est-ce que le Bayern joue, s'il joue vendredi ou samedi. Mais en vrai, c'est une possibilité. Et il peut rentrer en jeu aussi, ça c'est sûr qu'il va. En tout cas, il va jouer, je pense qu'on le verra, ça c'est sûr. Titulaire ou pas, on le verra.
Arrêtez de pleurer, c'est Messi le meilleur. Mbappé met deux buts de pénalty en finale, mais Messi était bon tous les matchs. C'est marrant quand même que tu soulignes le fait que Mbappé mette deux buts sur penalty en finale de Coupe du Monde. Mais si je reprends ton argument est complètement bidon. Tu es l'un des plus gros footix que j'ai vu dans ce live-là. Parce que Messi, je crois qu'il en a mis 5 des penalty sur sa campagne de
Coupe du Monde. Ouais, je crois qu'il en a mis 4 ou 5.
Si tu parles des penalty, ne t'aventure pas sur ce débat-là, mon ami. Ne t'aventure pas sur ce débat-là. Tu vas sur un terrain glissant, mon ami. Tu vas perdre. Donc ne parle pas des deux penalty de Mbappé parce que là, tu vas... Tu vas glisser, mon ami. Là, tu te dérapes. Tu es fatigué. Non, moi, je veux te dire une chose. Que je vois Messi, meilleur joueur de la Coupe du Monde, ça me fait tirer la tronche. Mais ce n'est pas délirant. Et que tu me dises qu'il est meilleur que Mbappé, je peux concevoir ta conception du football, ta conception de supporterisme d'un joueur. Mais voilà, c'est ta vision. Mais tu peux pas me dire que le gars qui dit que Mbappé était meilleur que Messi durant la Coupe du Monde, tu ne me dis pas que c'est un footix. T'as complètement pété les plombs, mon ami Malcolm, tu Malcolm Marc, je pense que tu as pas bien vu la Coupe du Monde. Je t'invite à la revoir parce que si tu la revois, tu diras quand même, déjà en finale de Coupe du Monde, c'est pas Messi le meilleur côté argentin. Déjà, fais très attention à ce que tu dis. C'est Enzo Fernandez le meilleur côté argentin, et je crois même, j'irai même plus loin, en finale le meilleur c'est le gardien de l'Argentine. C'est pas Messi. Même Di Maria qui a fait une bonne Coupe du Monde, une bonne finale. Donc attention, mon ami, tu t'aventures sur un terrain glissant. Mais après, je peux concevoir que tu me dises que Messi est le meilleur joueur de la Coupe du Monde. C'est des sensibilités football. Et puis c'est pas délirant. Il a mis 7 buts, si je ne dis pas de bêtises. 7 buts, même s'il a mis 29 pénaltys. Time, c'est fini. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. J'aurais une petite dernière question pour faire plaisir. Deschamps qui a tué la France avec il est parti quand même en finale. J'aime trop Barry. Non mais Disco, en fait moi je veux bien qu'on me dise que je suis un footix, mais si tu prends l'argument des pénaltys pour Kylian Mbappé et je quand même l'objectivité de parler des pénaltys Lionel Messi, si tu pars pour Mbappé qui t'a mis deux pénaltys en finale de Coupe du Monde, et tu me dis après que Messi était bon sur tous les matchs, parle-moi aussi des pénaltys de Messi alors. Parce qu'on les a vus, les pénaltys de Messi. Le trois quarts de ses buts, il les a mis sur pénalty. Donc, mauvais argument. Du coup, on n'a pas d'autres questions. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là, les mecs. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'être là. Ça fait, je crois, une semaine. deux semaines. En plus, avec Ricoba, je pense qu'on forme un bon duo quand même.
Ouais, c'est ça.
Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter. Commenter. Je vais vous donner un sujet et je vais vous commenter sur ce sujet-là. C'est quoi ton parfum? Alors moi, personnellement, mon parfum là actuellement, c'est Tobacco Lord de Dior. Je vais vous donner un sujet. Que pensez-vous du trophée The Best? Répondez-moi dans les commentaires. Répondez-moi dans les commentaires. Et puis si vous voulez réagir à tout ce qu'on a dit durant le live, ça nous fera plaisir. N'hésitez pas, on va interagir avec vous. Allez faire un tour sur la chaîne de Ricoba. Il traite du Paris Saint-Germain, notre deuxième amour après nos copines, le Paris Saint-Germain. Puis moi, je vous retrouve sur Paris Central ou sur mon compte Twitter. Voilà. Donc,
ouais, ça marche.
Ça, on va être séparés.
Yes. Ciao, ciao.